Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Cannes Côte d'Ivoire 2023, la RDC joue la Guinée ce soir en quart de finale. À Kinshasa, certains Kinois sont plutôt optimistes. À Lubumbashi également, la plupart croient en la victoire des Léopards. Dans le massif nord Kivu cependant, plusieurs habitants sont privés de suivre cette compétition à cause de l'insécurité dans leur région. 6 mois déjà passés depuis l'assassinat du député national Chérubin Okende. Fatigué de prolonger le deuil, sa famille décide de l'enterrer, annonce l'avocat de la famille. Maître Laurent Onyemba explique que la famille n'a jamais eu accès au rapport de l'autopsie ni reçu des réponses aux multiples courriers adressés aux autorités du parquet. Madame, Messieurs, bonjour. Les yeux et les cœurs de tous les Congolais sont tournés vers la Côte d'Ivoire où les Léopards de la RDC vont jouer contre le Sili National de la Guinée ce vendredi 2 février à Abidjan. C'est pour accéder à la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais que pensent les Kinois de cette rencontre? Ceux que Marie-France Mungindu et Alpha Mpoissa ont rencontrés à Kinshasa sont plutôt optimistes. Je vous propose de les écouter.
La RDC contre la Guinée, les pronostics, étant que réaliste, je dirais que ça sera pas facile. Mais étant que patriote, je pronostique qu'on va gagner. 2-0.
Je plaide en faveur de la RDC avec une victoire 2-1. 2 buts de Mayele et Bakambu.
Je pronostique en faveur de la RDC 2-1.
On va remporter la victoire par 2-1.
Nous gagnerons 2-0 ou 2-1, mais nous gagnerons.
En tout cas, 2-0. Si pas 2-0, 2-1. La victoire est certaine de notre part.
Nous avons toujours de l'espoir. Pour moi, 2 buts.
Nous serons qualifiés. La RDC va battre la Guinée par 3-1.
2-0. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à prendre les coupes.
2-0.
En tout cas, nous, on va gagner. Même 5.
5.
5 buts.
Eh oui, la RDC joue la Guinée ce soir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre qui déchaîne les passions chez les Louchois également. Si la plupart croient dur comme fer en la victoire des Léopards, d'autres jouent à la prudence tout en espérant voir la RDC briser le signe indien qui la poursuit depuis des lustres sur l'échiquier africain. Quels sont alors les enjeux de ce match, Jean Gandou?
Ce match est qualifié par certains Louchois comme celui de tous les dangers et de tous les enjeux. De tous les dangers parce qu'il est à élimination directe. Après un parcours élogieux depuis le début de la compétition, les Léopards ne doivent pas baisser les bras et se laisser éliminer à ce stade, ce qui sera une véritable déception pour les Congolais qui croient en la renaissance de cette équipe nationale. Ce match est aussi de tous les enjeux car la RDC est à 2 doigts de la finale qu'elle n'a pas jouée depuis plusieurs décennies. Et pour y parvenir, de nombreux Louchois estiment que la clé de la victoire des Léopards se trouve bel et bien entre les mains du sélectionneur qui doit monter un 11 national capable de s'effrayer ainsi un chemin pour le tour suivant. Pour d'autres, les Léopards doivent aborder cette rencontre sans s'appuyer sur les statistiques qui montrent que la RDC a une ascendance sur les Guinéens car cette CAN est pleine de surprises où les favoris plient bagage les uns après les autres. Ils demandent donc aux Léopards de mouiller le maillot car les Guinéens ne sont pas arrivés à ce stade de compétition par l'effet du hasard, d'où, d'après eux, la prudence doit être de mise et les joueurs doivent se sublimer et faire mieux que lors des matchs précédents en marquant des buts. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ce temps, beaucoup de fans de football dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, notamment dans la cité de Mueso, sont privés de suivre cette compétition africaine. Angoissés et stressés à cause des affrontements dans leur région, ils ne peuvent se déplacer pour suivre les matchs dans des salles de cinéma. Ils disent toutefois soutenir les Léopards. L'un d'eux a été joint par Denise Lukeso.
Nous sommes en train de suivre la CAN, mais le problème avec la zone est dans la sécurité totale, donc on n'a pas vraiment assez de temps à suivre les matchs. Surtout pour se déplacer pendant la nuit, on est en train de quitter plusieurs quartiers pour se déplacer là où il y a des cinémas pour regarder les matchs. Mais le problème, c'est l'insécurité. On a peur. Comment assister à des activités sportives lorsque vous voyez qu'il y a des bombes partout, des affrontements partout? On a peur d'être la cible des attaques. C'est vraiment un défi, une difficulté de notre part pour bien suivre les matchs en territoire de Massissi, surtout que partout il y a l'insécurité, il y a des bandades, déplacements des populations, il y a des coups de balles partout. Alors on a peur vraiment. Toutefois, nous sommes de cœur avec notre grande équipe Léopard.
Le Nord-Kivu, calme relatif hier jeudi après-midi dans la région de Mueso après la reprise des affrontements dans la matinée, notamment à Mbuhi et Bukama, environ 2 km de la cité de Mueso. Le mercredi soir, des accrochages ont été signalés entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux et les FARDC, affirment nos sources. Le récit de Sifa Maguru.
Les groupes armés locaux auraient attaqué tôt ce matin les positions des rebelles vers Mbuhi, Bukama et Nyampanika dans les collines sans les déloger, affirment nos sources. Cette situation a ravivé la psychose dans la cité de Mueso après les derniers combats qui ont occasionné un bilan lourd en vie humaine et dégâts matériels. Certains habitants qui tentaient de regagner leur domicile profitant de cette accalmie de quelques jours sont vite retournés dans leur refuge à l'hôpital général de Mueso et à la paroisse. D'après nos sources, environ 85% de la population de Mueso est toujours en refuge car la situation n'est pas encore rassurante. Les rebelles du M23 occupent toujours la cité de Mueso et ses environs. Ces derniers ne sont pas très éloignés des groupes armés et des FARDC. Par ailleurs, un calme précaire s'est observé également ce jeudi dans la région de Karuba, Mushaki et Musekera au nord de Sake après des bombardements des FARDC contre les positions des rebelles. Aucun changement n'est signalé sur les lignes de front. Les uns et les autres gardent leurs positions initiale. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, fatiguée de prolonger le deuil 6 mois après son assassinat, la famille du député national Chérubin Okende vient de lever l'option de l'enterrer sans contrainte ni procédure quelconque. C'est l'avocat de la famille qui l'a annoncé à la presse hier jeudi à Kinshasa, ce à l'issue de l'entretien avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Déçu, maître Laurent Onyemba explique que la famille n'a jamais eu accès au rapport de l'autopsie ni reçu des réponses aux multiples courriers adressé aux autorités du parquet. On écoute maître Laurent Onyemba dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Le père de M. Chérubin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la fuite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir. Il a répondu que le corps était déjà à disposition de la famille de M. Chérubin Okende. Alors, la famille estime que on ne peut pas donner le corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Mais parce que la famille est aux abois, la famille est fatiguée de prolonger ses deuils, elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chérubin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque.
Dans l'actualité, sachez aussi que la certification des états financiers au sein des établissements publics de la RDC se fera désormais dans tous les services étatiques et portefeuilles du pays, ce après la nomination en octobre, formation en décembre et remise des brevets hier jeudi par le Premier ministre à 96 commissaires aux comptes. Ces derniers, à en croire Jean-Michel Samaloukonde, viennent combler les vides dans la majeure partie des établissements publics à la suite de la réforme du portefeuille d'État de 2008. Cette réforme avait transformé certaines entreprises publiques en établissements publics qui ne disposaient donc pas de commissaires aux comptes. Explication Billy Van Lutumba.
Autre irrégularité corrigée ce jour, les commissaires aux comptes en fonction dans les autres établissements publics exercent depuis 17 ans, contrairement à la loi qui fixe l'exercice à 5 ans. D'où la satisfaction de l'inspecteur chef de service de l'IGF, Jules Alinguete.
C'est pour la première fois qu'un chef du gouvernement fait honneur aux commissaires aux comptes pour vous former, vous installer et vous remettre les brevets. Et vous devez en être fier.
Occasion pour le Premier ministre Samaloukonde de rappeler aux brevetés les attentes du gouvernement avec des recommandations.
Les commissaires aux comptes ont un rôle indéniable dans la bonne gouvernance et dans la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance aussi bien des établissements publics que des entreprises du portefeuille. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler ainsi la lourde responsabilité qui vous incombe désormais dans la certification des états financiers des établissements publics afin de donner au gouvernement la photographie réelle des 10 comptes dans la perspective d'une meilleure contribution des établissements publics au budget de l'État.
Signalons que ces commissaires aux comptes font partie de l'ONEC, Ordre National des Experts Comptables. Seuls ceux inscrits au tableau de l'ordre de cette corporation sont habilités légalement à exercer cette fonction en RDC, insiste le Premier ministre.
Direction la province du Tanganyika. L'énergie électrique a été rétablie dans la soirée de mercredi dans la ville de Kalemie et ses environs. C'est après 5 jours de coupure. Dans une conférence de presse hier à Kalemie, le chef de division production et transport Bendera de la SNEL explique ce qui a été à la base de cette panne. Saga Likaïté est au micro de Paulin Munanga.
La panne qu'on a connue était due après investigation, non pas à la centrale, mais à la ligne 132 kV reliant Bendera à Kalemie. Après investigation, c'est hier où on a situé les défauts entre le village Mazondé, à 35 km de Bendera, et le village à 68 km. Il y a un village, c'est entre les deux villages où on a connu une chute d'un arbre qui a fait descendre un conducteur de la phase bleue. Le conducteur est remonté et c'est comme ça qu'hier on a pu rétablir le courant dans la ville de Kalemie. Dans le temps, on pouvait trouver les défauts en un jour parce que Monisco nous aidait avec son hélicoptère et vous allez tout le long de la ligne. Et visiblement, vous verrez que non, c'est assez endroit où l'arbre est tombé. Et en un jour, vous pouvez rétablir la situation.
Sud Kivu, les travaux au port de Kalundu ont été réalisés à 90% des nouveaux entrepôts, une nouvelle clôture érigée dans les limites du port, ainsi que d'autres nouvelles infrastructures devant abriter les services de l'ordre opérationnel sont déjà construits. C'est le constat fait par une délégation mixte composée des membres du gouvernement central et provincial avec ceux de l'entreprise Trademark Africa. Ces derniers ont clôturé mercredi une mission d'inspection dans la ville d'Uvira. Une nouvelle feuille de route a été établie pour la réception technique et officielle de ces ouvrages construits par cette entreprise. On écoute la chef de la délégation congolaise, Cécile Mbanseba, dans ses propos recueillis par Fiston Goma.
Nous sommes satisfaits de l'ouvrage. Nous félicitons le gouvernement qui vraiment a pensé à la SNCC et nous estimons que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter ici. Mais néanmoins, pour le port de Kalundu, il faudra que tous les acteurs, tous les opérateurs qui interviennent au niveau du port puissent valoriser. C'est le deuxième port du Congo. Il faut que le port de Kalundu reprenne ses couleurs. Il faut que le port de Kalundu reprenne sa valeur d'antan. D'après l'évaluation que nous venons de faire avec le maître de l'ouvrage, avec Trademark Africa et avec tous les comités, nous estimons donc le constructeur, il serait prêt d'ici le 28 pour tout terminer et faire une réception technique. Et nous retenons qu'il y aura encore la réception officielle qui est projetée pour le 15 du mois de mars.
Actualité internationale. Nous sommes au Kenya. Près de 300 personnes ont été blessées dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz dans la nuit de jeudi à ce vendredi à Nairobi, a affirmé ce vendredi la Croix-Rouge. Les actions concertées de diverses unités d'intervention ont abouti à l'évacuation réussie de 271 personnes vers différents établissements de santé à Nairobi, a affirmé la Croix-Rouge sur son compte X. De nombreux pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser l'incendie, à constaté un journaliste de l'AFP sur place. Des larges colonnes de fumée noire s'échappent encore du brasier. Un précédent bilan donné par le commandant de la police régionale de la capitale kényane faisait état d'au moins 165 blessés. Depuis l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, une vague de réactions secoue l'Afrique. Le premier ministre burkinabé a justifié une décision mûrement réfléchie. Si cette décision était prévisible au vu des événements juste après le coup d'État de juillet dernier au Niger, elle a pris plus de temps que prévu. Les autorités estiment que la CEDEAO ne répond plus à ses objectifs principaux et aux aspirations des populations du Sahel, d'où la création de l'Alliance des États du Sahel. Par ici prend fin ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, Pierre Diassinois à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.